This is the sound.
This is the sound of the Sabbath. This is the sound.
Pour finir, Stiff Little Finger Alternative Ulsters et Violators Summer of 81. Bonne journée!
Il a combien de temps?
Ah bah là j'ai mis une tonne pour passer à la radio.
C'est bonjour. Radio sans nous.
Non, prenez des notes, écoutez, parce que Radio répéter, sans nous et on est super ponctuel. Du coup, c'est l'émission généraliste du dimanche midi. Du coup, c'est une émission qui se fait en direct, ce qui veut dire que vous pouvez aussi interagir avec nous. Et pour interagir avec nous, le mieux, c'est de se mettre sur notre petit chat commun. De bien Radio vu. Sans nous. Envoie-nous alors, un comment est-ce que vous faites pour y accéder? A priori, vous écoutez la radio depuis un blog. Et du coup, dans ce blog, il y a des petites indications.
Putain, la vache, je ne comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Un autre truc, si tu veux participer à une radio d'EducPop, cna-pdll.org slash radio sans nous. Peut-être on va se dire déjà qu'il y a dans notre petit studio virtuel. Du coup, moi, c'est JB.
C'est pas mon genre de participer.
Régis, donc confiné dans la région.
Céline, bonjour.
Léo, bonjour à tous.
Manu.
Claude.
J'ai pas fait le décompte, on est tous et toutes passés.
Non, j'ai pas entendu.
Il n'y a pas Mathilde.
Mathilde.
Sans vouloir la dénoncer.
Mathilde a disparu. Peut-être on peut lui faire signe par notre petit chat de dire de revenir par là.
Voilà. De se reconnecter.
Voilà, c'est un des petits soucis qu'on a régulièrement. Comme on n'est pas ensemble, bah, des fois on se déconnecte, on se reconnecte. Du coup, là, vous écoutez l'émission généraliste. Aujourd'hui, on va causer de quoi? Dans un premier temps, on va causer de Fouad. La Fouad qui préexistait au confinement, mais dans lequel on a dû se mettre un peu plus rapidement, et du coup de discuter un peu, bah, ça a été quoi les aménagements en début de confinement autour de la Fouad, c'est quoi le retour des stagiaires, les outils qu'on utilise, et puis de discuter un peu pédagogique de ce qui se joue, et de vous présenter un peu ce qu'on en pense au CMR. Et dans un deuxième temps, alors toujours dans un deuxième temps, puisque la zététique, on la relègue toujours un petit peu à la fin, il paraît, il y aura une émission zététique autour
du... Il paraît très bien que c'est un complot. Hein.
Il paraît que c'est un complot. Ouais. Ça, on va demander au groupe zététique d'aller faire des recherches là-dessus.
Bobby l'a dit, c'est l'a dit.
Ah, il y a Chloé qui lag dans le fond. Voilà. Et du coup, autour d'une breaking news, le coronavirus... A-t-il été fabriqué à partir du VIH? La réponse, ou plutôt des éléments de réponse et de réflexion, du coup, dans la deuxième partie de l'émission. Et voilà, du coup, on va pouvoir commencer la première partie autour de la FOAD. Je vous laisse la parole.
Voilà, autour de la FOAD et de la formation à distance. On aura peut-être l'occasion de la définir un peu au cours de cette émission. Et une FOAD qui s'est imposée, en tout cas pour un certain nombre de formations. Alors, on a déjà fait une émission sur la question des outils, des supports numériques qu'on utilisait et des risques d'utiliser certains supports numériques marchands avec en plus la question des traceurs, des marqueurs, enfin de comment ça pouvait renforcer cette société de contrôle qu'on sent bien en ce moment. Et donc là, c'est plutôt sur les aspects pédagogiques de comment se vit la FOAD, à la fois des intérêts et de tout ce que ça peut permettre, et à la fois aussi de ses limites. Donc peut-être, je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole, mais commencer par échanger autour de comment ça s'est passé autour du 16 mars, avec une mise en FOAD très rapide qu'il a fallu mettre en œuvre, avec des stagiaires qui ont dû réagir, avec des équipes qui ont dû réagir, avec des modifications de démarche, etc., de manière très très rapide. Alors je ne sais pas s'il y a une première réaction un peu sur ce démarrage un peu dans le speed, un peu imposé par un contexte.
Du coup, moi je veux bien essayer. Est-ce qu'on m'entend?
Oui, c'est parfait.
Bon, bah, super. Eh ben, on s'était dit que c'était Céline qui faisait cette partie-là.
Ah, eh bien j'y vais alors. Bah, peut-être... Ouais. Peut-être pour commencer, moi je dirais que. Alors oui, il y a eu une phase d'urgence parce que il a fallu réagir très vite au moment du début du confinement. Là. Mais peut-être la chance, entre guillemets, qu'on a, c'est que de la formation à distance, on en faisait déjà. Alors pas du tout dans la mesure où on est là aujourd'hui, mais en tout cas les groupes et les équipes avaient déjà une pratique de la formation à distance avec des outils qui étaient déjà partagés avec le groupe. Et du coup, on a pu quand même commencer à travailler à partir de ce qu'on avait déjà, quoi, à partir de ce qu'on faisait déjà. Mais bon, peut-être on peut dire quand même... Donc, il y avait déjà des outils, mais il a fallu quand même se poser des questions sur est-ce que ces outils-là, ils sont suffisants là, dans le cadre d'une formation complètement à distance sur plusieurs semaines. Continuer à utiliser ce qu'on utilisait déjà avec les stagiaires et puis en trouver de nouveaux. Par exemple, la conférence téléphonique ou la visioconférence, ce n'était pas des choses qu'on utilisait dans le cadre de la formation à distance ou très peu. Et donc, il a fallu aussi s'habituer à utiliser ces nouveaux outils et à ce que les stagiaires s'habituent à les utiliser.
Alors, effectivement, dans le chat, on nous demande de quelle formation on parle. C'est vrai qu'on n'a pas précisé les choses.
Ouais, alors du coup, là, on parle des formations à l'animation professionnelle. Donc, c'est des formations longues. Qui vont du niveau CPGEPS, donc c'est des gens qui plutôt découvrent l'animation, en passant par les BPGEPS, les DEGEPS et jusqu'au DESGEPS, mais qu'on n'a pas en ce moment en formation à distance. Donc voilà, c'est des gens qui sont en formation d'animateur et d'animatrice.
Et puis des interventions en FOAD universitaire. Sur des masters.
Tout à fait. Voilà, puis alors, au-delà des outils, de fait, ce confinement-là, ça a demandé à... En fait, les semaines de formation, elles étaient prévues en présentiel, et du coup, il a fallu modifier les démarches, modifier les outils qu'on allait utiliser, donc en fait, repenser les temps de formation, pour les faire à distance et pas avec les stagiaires dans la salle avec nous. Quoi. Donc ça, effectivement, ça a demandé beaucoup de travail et ça en demande toujours aux équipes. Mais peut-être, Mathilde, tu peux en dire quelques mots.
Oui, du coup, moi, je suis formatrice sur deux formations de GEPS, deux groupes différents, une formation qui se termine et un groupe qui commence à sa formation et effectivement ça s'est mis en place dans l'urgence et puis on est quand même parti d'un constat, c'est que personne a choisi de vivre cette formation à distance, que ce soit les stagiaires ou les équipes de formation. Ça s'est mis en place là dans un contexte qui était contraint et dans un contexte anxiogène, et c'était pas quelque chose qu'on a choisi. On n'a pas réfléchi l'ensemble de nos formations en se disant le ruban pédagogique, il est pensé à distance. Et du coup, il a fallu tout de suite qu'on prenne en compte un ensemble de réalités contraintes et en même temps nécessaires, en se disant il faut qu'on s'adapte, à se dire les personnes, elles vivent ce confinement-là de manière différente. Et du coup, comment est-ce qu'elles sont seules dans un espace confiné, ou est-ce qu'elles sont plusieurs, est-ce qu'elles sont en couple, est-ce qu'il y a des enfants, pas d'enfants, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui télétravaillent dans le même espace, la question aussi de réalité d'alternance qui sont différentes, parce que les formations, elles sont en alternance, et du coup, pendant les temps en centre de formation, il y a quand même des gens qui ont été réquisitionnés sur leur structure d'alternance. Il y avait ceux et celles aussi qui avaient tout ce qui était autour des difficultés de connexion Internet, d'utilisation d'outils numériques, la question des forfaits téléphoniques limités. Voilà. Et du coup, il a fallu prendre l'ensemble de ces facteurs en compte là, en se disant il va falloir qu'on réfléchisse à se dire comment est-ce qu'on passe une formation que nous, on a pensé en présentiel avec certains temps à distance à du tout en distanciel, même si c'est pas ce qu'on défend dans nos pratiques, puisque nos formations elles sont bien pensées en majorité à distance, en présence et une minorité à distance, bah là on a une contrainte de tout à distance. Et ça, bah ça a fait un moment de comment, enfin, il a fallu opérer un basculement sans une anticipation de réflexion. Et ça a pu créer à des moments des choses où on s'est dit, oulala, où est-ce qu'on va? Et du coup, on a dû penser en faisant et bah, on l'a fait, mais c'était pas forcément agréable et la façon dont on préfère travailler. Et après, en prenant en compte des choses, enfin, nous, qu'on a vécu sur une réalité, c'est qu'on n'a pas des groupes qui sont au même moment de leur formation. Et du coup, ça se vit pas de la même façon avec un groupe qui commence sa formation. Et notamment, ce que disait Céline sur la distance, on en fait déjà. Donc, il y a déjà des outils qui sont partagés, qui sont en place. Et peut-être, ils étaient pas suffisants. Mais en fait, ça se vit pas de la même façon. Et je pense que c'est l'outillage, mais c'est aussi la dynamique de groupe avec un groupe qui est installé qu'avec un groupe qui commence.
Ça veut dire que c'est encore plus dur et plus difficile peut-être avec un groupe qui démarre, puisqu'il y a eu même des formations où c'était le premier jour qui était en fraude.
Bah oui, forcément, parce que dans ce qu'on peut défendre, dans qui on est les SMR, il y a bien un truc de, on se l'est toujours dit, on fera jamais que du distanciel et que, bah, je pense jamais avant ce moment de confinement, on aurait pu penser commencer une formation que par une journée en distanciel. Et que le groupe, pour être groupe, il commence bien en présentiel.
Alors,
et que la question de la rencontre, elle se vit bien en présentiel. Et que là, on a dû adapter des choses.
Tout à fait. Mathilde, là, tu as évoqué les difficultés liées à... bon, je ne redis pas tout le propos, hein, mais liées à la fracture numérique... mes connexions, mais aussi ma vie familiale, on est combien dans le lieu où je fais ma formation. Est-ce qu'il y a aussi une fracture ou pas cognitive? C'est-à-dire, est-ce que il y a des concepts pour certaines personnes peut-être plus durs à acquérir? Enfin, je pense à, alors c'est pas forcément sur le DE, mais à un témoignage sur l'évaluation, qui est quand même pas un concept facile à mettre en œuvre, l'évaluation d'objectifs et autres, et comment à un moment donné, si j'en ai pas la pratique, comment ça peut être peut-être plus dur en termes d'acquisition? Ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on a pu expérimenter sur des acquisitions un peu complexes? Avec quels outils, quelles démarches? Non, ma question n'est peut-être pas claire.
C'était, je pensais, un truc de qui veut répondre.
Ouais, ok. C'est vrai qu'on se voit pas, hein, donc on peut pas se faire de signes.
Et puis en plus, je suis en train de construire. Mais je sais pas. Moi, je veux bien tenter une réponse. Oui, je pense. Enfin, moi, j'aurais trois niveaux de réponse sur la question de la fracture. Je pense qu'il y a une fracture numérique. Il y a une fracture numérique. Après, possiblement, on savait qu'elle existait et le fait de tout passer à distance. Elle est d'autant plus flagrante. Elle est flagrante pour nous, mais je pense qu'elle est flagrante pour, je dirais aujourd'hui pour les responsables politiques de la ville. Enfin, elle est flagrante. Elle explose aux yeux de tous et toutes. Sur les fractures cognitives, oui, il y a des choses, mais qui viennent aussi se mettre en lien avec la question de nos modes d'apprentissage. À dire, nous, l'apprentissage, il est fondé sur l'alternance, et que là, à un moment. Nous, on fait des temps d'apport qui sont construits en éducation populaire et en éducation nouvelle de ce qu'on fait à distance. Et si les personnes, elles n'ont plus accès à leur structure d'alternance, vient vite se poser la question du sens de l'apprentissage et de comment est-ce qu'on arrive à relier ce que nous on peut, ce qui peut s'apporter en temps de formation à distance en organisme de formation s'il n'y a plus de connexion avec le terrain. Et ça, je pense, à des moments, je sais pas comment on va se déconfiner, mais c'est une problématique, là, je pense, à laquelle on va être confronté à se dire, comment est-ce qu'on peut se former au métier de l'animation, qui est basé sur une formation en alternance, s'il n'y a pas de possibilité d'alternance pendant 3 ou 4 mois? Et du coup, bah, forcément, la question cognitive, elle fait bien sens si les personnes, elles y trouvent une réponse dans les deux espaces, qui est l'espace organisme de formation, mais qui est aussi l'espace lieu d'alternance. Et je ne sais pas si c'est que dépendant de nous. Et la troisième fracture, pour moi, que je repère, et je ne sais pas comment la catégoriser, mais c'est un truc au niveau de l'organisation. Et je trouve que la question du travail à distance vient réinterroger la question de comment est-ce que les personnes elles arrivent ou pas, ou elles sont autonomes ou en apprentissage sur leur relation dans l'organisation au travail. Et ça, je ne sais pas si c'est une question de niveau de formation, mais moi, je ne l'avais pas forcément vu venir avant, et je pense qu'il y a trois niveaux là-dessus. Numérique, cognitif et organisationnel.
En revenant sur le cognitif, bon, si on prend l'évaluation, malheureusement, alors, déjà, voilà, tu as raison, tu l'as dit là, on est dans un contexte où l'alternance n'a peut-être pas lieu, mais en plus, même quand l'alternance a lieu, des fois, ce n'est pas l'espace le plus aidant sur lequel je prenais un objet précis, hein, qui était l'évaluation. Ce n'est pas forcément le sujet le plus traité et le mieux traité dans les espaces d'alternance. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui donne la limite de certains outils comme les MOOC et autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individualisation.
Non.
Hein, et donc là, effectivement, nous, sur la vision qu'on peut avoir de l'alternance, c'est comme, enfin, de la FOAD, je veux dire, c'est comment on se permet aussi de pouvoir être dans la relation 1-1 par moment, quand il y a des blocages cognitifs, quoi. Alors il y a une question, c'est quoi un MOOC? Je sais plus le nom exact que ça veut dire, mais c'est des dispositifs sur lesquels tu peux t'inscrire et tu as un parcours 100% qui est fait où tu es autonome dans ton parcours. Voilà, je le définirai comme ça un peu rapidement. Mais c'est-à-dire que là, tu n'as pas de temps d'individualisation, tu n'as pas de temps synchrone ou asynchrone. Enfin, voilà, tu es dans un espace collectif et tu enchaînes les espaces, quoi.
Ce qui est quand même très différent de ce qu'on fait. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même, depuis le début du confinement et la formation à distance, j'ai l'impression que les formateurs et formatrices, ils passent beaucoup de temps en accompagnement individuel ou en petit groupe, parce que effectivement, alors je pense que ça dépend aussi des niveaux de formation, hein. C'est pas, il se passe pas les mêmes choses ou c'est pas les mêmes difficultés qui sont rencontrées par les équipes en DEGEPS ou en CPEGEPS. Sur les CPEGEPS, par exemple, j'ai l'impression que les stagiaires peuvent avoir très vite l'impression d'être isolés. C'est-à-dire que même si on travaille ensemble à distance, même s'il y a des démarches collectives, etc., etc., et ben parfois, quand il y a un exercice à faire ou quand il faut réfléchir les apports qui viennent d'être faits tout seul chez soi devant son ordinateur, ben c'est quand même pas simple. Et du coup, ça demande de reprendre des choses individuellement avec les personnes qui sont en difficulté. Et donc, ça demande de repérer qui est en difficulté. Et ça, je pense que c'est pas simple, parce que de dire dans un groupe « moi, j'y arrive pas » ou « je comprends pas », c'est plus simple quand on est dans la même pièce, parce que nous, en tant que formateurs et formatrices, on va aussi s'appuyer sur le langage corporel ou ce qu'on détecte des personnes, comment elles vivent la situation d'apprentissage juste en les regardant. Ben là, ça ne marche pas. Donc, en fait, il faut demander aux gens, mais c'est aussi qu'il faut que les gens acceptent de dire « moi, j'y arrive pas ».
Effectivement, le CPGEP, c'est peut-être des gens… on ne va pas faire une généralité, mais peut-être que certains dans le groupe cumulent les trois difficultés qui ont été évoquées. Mais avant de peut-être aller sur une autre question autour, parce que là, on a présenté un peu les limites, mais peut-être aussi d'aller un peu plus loin sur les intérêts des outils, des démarches qui ont été utilisées en FOAD. Une petite pause musicale, c'est JB qui le proposait.
C'est parti. Radio Sando, COVID-19.
Ok, boomer, l'expression envahit le web depuis quelques jours. Alors si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est parce que vous en êtes un boomer.
Ils savent plus quoi inventer. De toute façon, on peut plus rien dire aujourd'hui. Nous, de notre temps, on se plaignait moins.
« Les jeunes d'aujourd'hui, leur musique c'est que du boom boom. Toujours la tête dans leur smartphone, savent même plus que c'est qu'un bouquin de mon temps. On savait faire la fête, fête. Faut des bonnes notes à l'école pour réussir sa vie. Être allergique au gluten, c'est à la mode, mode. C'est à cause des jeux vidéo que les jeunes d'aujourd'hui sont violents. Un enfant c'est un papa, une maman. Allez, c'est parti mon kiki.
Oh. Ok, Boomer.
Ok, Boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. Ok, Boomer, dans tes boomers, viens chercher bonheur. Ok, Boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. Rien que ta peur, change les mœurs, trouve-toi une victime ailleurs.
Ils veulent quoi les vegans, ils veulent qu'on bouffe de l'herbe. À l'époque de Coluche, on savait rigoler. Les meilleurs Star Wars, ça reste les premiers. C'est pas avec tous ces tatouages que tu vas trouver un taf.
Moitié de visage sur FaceTime, publication sur Facebook. Moitié de visage sur FaceTime, adresse AOL pour toujours. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas comprendre, t'es trop jeune.
Yet, right now, the average age of this 52nd parliament is 49 years old. Okay, Boomer.
Okay, Boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. Okay, Boomer, dans tes boomers, viens chercher bonheur. Okay, Boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. Rien que ta peur, change les mœurs, trouve-toi une victime ailleurs.
À Dallas,
ok Boomer.
En avant Guingamp,
ok Boomer.
A plus dans le bus,
ok Boomer.
Y'a plus de saison,
ok Boomer.
En bas laissé peser,
ok Boomer.
Papy guédé hanneton,
ok Boomer.
Cool Raoul,
ok Boomer.
J'ai dit cool Raoul,
ok Boomer. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas comprendre, t'es trop vieux.
Bonjour.
Bonjour.
T'allais bien?
T'amuses bien là?
Oh ouais.
Non. Vous avez quel âge?
Je suis trop vieux pour vous.
Eh ben, vous êtes à l'écoute de Radio Sans Nous sur l'émission Généraliste. On est en train de discuter autour de la foi des pratiques dans lesquelles on est aujourd'hui. Et en fin d'émission, enfin pas en fin d'émission, après, il y a de la zététique autour d'une breaking fake news sur le coronavirus aurait été fabriqué à partir du VIH. Et du coup, on va réfléchir à partir de ça. Pour les gens qui nous rejoignent, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le chat parce que comme on est en direct, vous pouvez poser vos questions. Je vous laisse la parole.
Voilà. Et là, on va partir sur une deuxième partie. On a évoqué un peu les freins cognitifs, numériques, sociaux. On n'a pas évoqué celui de l'agir, c'est-à-dire que le frein des contenus, c'est-à-dire qu'on peut-être pas, on peut pas tout faire de la même façon en FOAD, et certains éléments d'ailleurs très difficiles ou pas possibles à faire en FOAD. Et là, on va plutôt aussi aller du côté de l'intérêt. Hein, intérêt qu'on connaissait déjà, qu'on percevait, qu'on pratiquait, mais qu'on a aussi redécouvert ou découvert dans un contexte contraint. Comme quoi, des fois, la contrainte, l'éducation de révèle arrive à créer de nouvelles choses, en tout cas de construire de nouvelles relations. Et est-ce que, du coup, Mathilde, Céline, vous pouvez en parler un peu de ces différents outils qui ont permis de créer de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouvelles coopérations dans le groupe?
Moi, je veux bien y aller. Du coup, on a été sur cette question-là de l'urgence à faire. On a été appuyé par des personnes à l'interne du mouvement qui sont aussi bien pédagogue que technicien et qui travaillait avec nous, avant ce confinement et qui, on l'espère, continuera à travailler avec nous après. Et ça a permis d'associer la technique du distanciel avec une vision pédagogique, et ça c'est assez intéressant dans le sens où ça a permis de répondre à se dire bah en fait c'est quoi les objectifs des semaines de formation et comment est-ce que derrière on va aller chercher des outils qui répondent bien à ces objectifs-là et pas juste à se dire bon bah en fait il y a des contenus à verser, on va poser des outils les uns à la suite des autres et bien de construire une démarche pédagogique et pour ça d'aller chercher un panel d'outillage adapté qui permettent quelque chose qu'on va défendre fortement, c'est-à-dire de faire vivre un groupe en se disant bah en fait les savoirs qu'on va créer tout au long de la formation, là, ils viennent bien, ok, de l'équipe de formation, mais ils viennent bien aussi de chaque stagiaire, ce qu'il va mettre dans cette formation-là, et que pour ça, on avait besoin d'outils numériques collaboratifs. Le premier outil numérique collaboratif qui a été proposé, c'était d'avoir une plateforme, un chat là qui réunit aussi bien un endroit où on peut déposer des choses qu'un endroit où on peut discuter, où on peut faire et d'associer après de la visio, de l'audio, tout ça, mais un endroit où on puisse se retrouver comme quand on se retrouve dans une salle de formation. Puis après, chaque groupe de formation pouvait agencer un peu sa salle de formation à distance comme il le voulait pour y créer des espaces qui soient aussi bien des espaces où on pratique du temps de formation, mais aussi des choses que nous, on a mis en place assez rapidement, qui étaient des temps à côté de la formation, alors qui n'étaient pas déliés de la formation, mais qui permettaient de faire alors, ce qu'on appelle, hein, dans le milieu de la digitalisation de la formation, là, du social working, là, du temps, ce qu'on appelle un peu chez nous du temps informel, mais de se dire, bah, en fait, c'est des choses qu'on causerait à la pause dans le jardin, si on est dans les locaux des CMA, sur le balcon, dans les escaliers, si je prends d'autres locaux, pour se dire, bah, il est important qu'on garde cette dynamique du collectif et du collaboratif, et de comment est-ce que tous les outils qui ont été pensés et qui continuent à être pensés ensemble, c'est bien des outils qui permettent de faire ensemble, et de faire ensemble que ce soit pour au sein du groupe stagiaire équipe de formation, mais aussi de faire ensemble pour l'équipe, toutes les équipes de formation qui travaillent ensemble. Et du coup, parce que les équipes de formation du secteur, sur tous les niveaux de formation, nous aussi, on doit travailler ensemble et à distance. Et du coup, c'est d'avoir un panel d'outils là, qui nous permet de faire ensemble sans être côte à côte.
Alors, est-ce qu'on peut citer quelques outils ? Alors, d'ailleurs, quand je t'écoutais, je me disais... il y a une similitude très proche à ce qui se vit dans la vie associative. C'est-à-dire, même la radio d'ailleurs, on est un exemple, hein, c'est-à-dire que on a utilisé, alors certains les utilisaient déjà avant, mais on a appris à utiliser un tas d'outils qu'on, moi en tout cas, à titre perso, j'utilisais pas aussi régulièrement que ça, voire j'utilisais pas. Et c'est vrai que du coup, ce sont des outils aussi qui sont utilisés dans la vie associative. Mais est-ce qu'on peut en lister quelques-uns pour donner un...
Bah, du coup, on a fait le choix, mais ça aussi, c'était être garant du cadre de formation que de proposer un outil qui vienne des équipes de formation et qui soit des outils libres et où on savait où étaient enregistrées les données qui passaient sur ces outils-là et donc de refuser de passer par... Enfin voilà, on a utilisé Mattermost hein, qui peut à des moments ressembler à Discord, mais on n'a pas fait le choix d'aller sur Discord par exemple, mais du coup d'utiliser Mattermost qui est déposé sur un serveur des CMA, ce qui permet aussi d'être garant du cadre de la sécurité des données des stagiaires et de se dire bah sur Mattermost, on crée nos espaces qui sont nos salles de formation à distance par groupe de niveau et sessions de formation. Après, on a toute la suite Zurit qui est installée pour chaque session de formation et qui permet d'utiliser des pads collaboratifs. On a de la visio qui est possible avec Jitsi. On utilise des tableurs collaboratifs. On utilise, j'ai pas révisé avant de venir, mais et puis après, on utilise aussi là de plus en plus sur les sessions de formation. C'est aussi comment est-ce que c'est une opportunité pour former. Alors aussi bien les équipes de formation que les groupes stagiaires à utiliser d'autres outils. Là, moi, je sais que sur le DE, on travaille à se former en commun, parce que les stagiaires, ils m'apprennent aussi plein de trucs sur faire du son, faire de la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on utilise et on leur a créé une session sur Peertube, et on fait le choix que ce soit sur Peertube et pas sur YouTube? Bah, c'est aussi sensibiliser les groupes stagiaires et du coup les animateurs, animatrices qui demain, qui sont déjà et qui seront encore demain en contact avec du public sur la question des données, à se dire bah en fait quel choix politique on fait en mettant nos données personnelles et professionnelles sur tel espace plutôt que sur tel autre. Donc il y a bien, enfin c'est aussi comment est-ce que en passant par ces outils là, alors même si c'est pas le premier temps il est d'abord, les gens ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne les outils, et ça a été les premières semaines. Bah, aujourd'hui, sur les semaines qui suivent, on en est à faire de l'éducation aux médias. D'abord, on a fait de l'explication technique et aujourd'hui, on fait de l'éducation aux médias. Mais il y a bien un enjeu politique dans la question des outils. Parce qu'on n'a pas choisi n'importe quel outil, parce que bah, les gens ils font pas une formation avec n'importe quel organisme de formation.
Et je pense que, comme pour la vie associative, hein, on se l'a dit plusieurs fois, au moins au niveau des CMA, de se dire certainement... sur un prochain regroupement régional physique, on aura à faire le bilan de ce qu'on a vécu. Alors le bilan, une analyse politique, mais aussi le bilan de comment on a construit nos relations, avec quel outil, et de certainement qu'est-ce qu'on gardera. On gardera pas tout, parce que je pense qu'on aura besoin de présentiel. On va pas faire toutes nos réunions de groupe de pilotage, de conseil d'administration, etc. À distance. Mais qu'est-ce qu'on aura envie de garder? Et je pense que c'est la même question qui va se poser sur les formations. C'est-à-dire, tiens, de ce qu'on a vécu là avec un développement par la contrainte, parce qu'on aurait été beaucoup moins vite quand il y a cette contrainte, qu'est-ce qu'on gardera après coup?
Ouais, alors, puis c'est déjà une question qui se pose sur l'animation professionnelle. Alors, peut-être avec une temporalité différente de la vie associative, parce que, on est dans des calendriers à plus long terme. Et de se dire, moi, ce que je trouve intéressant dans cette question de la formation à distance, c'est que la formation à distance, elle s'imbrique bien, normalement, hors Covid-19, là, dans des calendriers avec de la formation en présentiel. Et que pour qu'elle se vive bien, pour ces temps de formation à distance, ils se vivent bien, il est intéressant. Et de cette expérience, je retire qu'il faut qu'il soit travaillé de manière plus articulée avec la question du présentiel, et notamment sur la question des outils numériques. Là, je suis en train de travailler sur les prochains rubans du CPGEP, c'est la question du numérique et formation à distance, et je me dis, on a tout intérêt à travailler de manière peut-être plus approfondie cette question de l'accès aux outils numériques en présentiel pour pouvoir permettre aux stagiaires de, je ne sais pas si c'est mieux vivre ou d'être plus à l'aise, ou d'être plus acteur de leur temps de formation à distance. Et ça demande de plus travailler en présentiel, et du coup en associant de l'agir en présentiel, pour pouvoir peut-être, d'être plus autonome sur les questions cognitives, les questions organisationnelles et les questions numériques en distanciel.
Ok.
Alors, voulais juste dire un mot, parce que je trouve, en tout cas moi, ce qui m'intéresse aussi là dans ce qui se passe là sur la formation à distance, c'est l'importance de la parole. Je trouve que, en fait, assez vite, moi j'ai entendu des stagiaires remercier les équipes de formation parce qu'on a continué la formation, mais aussi parce qu'on a permis des espaces, enfin où on a favorisé des espaces, alors qui existent dans la formation en présentiel. Je pense au Quad 9 par exemple du lundi, où quand les gens ils arrivent en formation, il y a un temps de parole ouverte où on peut se raconter ce qu'on a fait dans le week-end, on peut présenter un bouquin, un film qu'on a vu qui nous a marqué, on peut parler de ce qu'on vit dans l'alternance. Et en fait, on se rend compte que à distance, ce moment-là dans la vie du groupe, il est hyper important, parce que il permet de dire ce qu'on vit chacun chacune dans notre lieu de confinement. Il permet de dire nos angoisses ou de pas les dire, mais en tout cas il y a un espace qui est qui est dédié à la parole, et c'est important, quoi. Et les gens, ils nous remercient de continuer à faire vivre ces espaces-là, même si je trouve que des fois, c'est pas facile. Enfin, accueillir la parole de l'autre quand l'autre raconte ses angoisses et ses peurs, c'est pas évident à faire, et encore moins à distance, je trouve. Mais pour autant, ben, enfin, je trouve que c'est un des points positifs là, de la formation à distance.
Je pense aussi, c'est le maintien, mais sur Mattermost ou avec d'autres outils du petit grand groupe. C'est-à-dire de pas, c'est-à-dire parce qu'on est à distance, on va prendre le groupe stagiaire dans sa globalité. Et bien évidemment, on peut constituer des petits groupes pour pouvoir échanger et mettre une parole de manière plus simple.
Oui.
C'est aussi, je pense, alors excusez, c'est pas notre sujet, vas-y. Je pensais aux expérimentations. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé sur une formation avec l'Université d'Angers sur les jeux de rôle. Et du coup, comment faire du jeu de rôle à distance? C'est comment on embarque aussi les stagiaires de dire, on va s'essayer, parce que là, moi, je peux pas vous dire ça va marcher, j'en sais rien. Si ça va marcher, comment on réfléchit à donner les rôles aux uns aux autres, mais ceux qui ont pas compris leur rôle, parce que c'est pas clair comment on se contacte, enfin voilà, mais il faut pas que ça soit vu aux des autres, parce que chacun a un rôle. Enfin voilà, en tout cas, c'est... Il y a un côté d'expérimentation qui est assez intéressant parfois, même si c'est assez limite. Hein.
Moi, je suis d'accord avec toi sur l'expérimentation. Moi, je trouvé ça assez intéressant d'aller, avec un groupe qui avait déjà commencé, mais de faire de l'analyse de situation à distance. J'ai trouvé ça intéressant en se disant, on garde le cadre et en même temps, comment est-ce qu'on travaille le cadre pour l'adapter au distanciel? En prenant en compte que c'est bien ce groupe-là, à ce moment-là, pourquoi c'est possible là, et ça peut sûrement pas être possible à plein d'autres moments. Et en même temps, en se disant, ok, la contrainte, elle est là, qu'est-ce que, en ayant une lecture de c'est qui le groupe, il en est où, mais qui est pour moi un travail de pédagogue de prendre en compte le public, l'environnement, l'objectif, et à partir de ça, quelle démarche je mets en œuvre. Et je trouve ce travail-là, c'est bien le cœur de notre métier, et après c'est aussi comment est-ce qu'on ne leurre pas le public à leur dire ça va forcément fonctionner. Non, ça ne va pas forcément fonctionner, mais par contre on en a conscience, aussi bien nous l'équipe de formation que eux et elles stagiaires, et on est en capacité de l'évaluer ensemble et du coup de remédier aussi ensemble. Et ça, je pense, alors ça joue pas pareil avec tous les groupes, et il y a bien aussi cette question de est-ce que la formation, elle commence, ou est-ce que c'est un groupe qu'on connaît déjà, mais je trouve c'est aussi quelle part on donne aux stagiaires, aux groupes stagiaires et aux stagiaires individuellement, mais ça va jouer dans la relation individuellement d'accompagnement, sur comment est-ce que on leur laisse une place dans cette nouvelle aventure qui est d'abord la leur, parce que c'est d'abord leur formation.
Okay. Je trouverais ça intéressant qu'on puisse continuer à réfléchir là sur cette histoire d'expérimentation, de comment quand t'es formateur, formatrice ou quand tu fais partie d'une équipe de formation. À plein de moments, on expérimente, que ce soit avec les stagiaires présents dans la salle ou à distance. Mais le fait d'accepter de dire, j'essaye quelque chose, je ne sais pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, et on va en discuter ensemble. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que la formation à distance, elle nous oblige aussi beaucoup à ça, à dire, on essaye et on verra bien, quoi, mais on n'est pas sûr.
Eh bien, on essaie aussi sur la radio, et on va se faire une petite pause musicale pour revenir sur un dernier temps sur la FOAD et après passer à la zététique. Voilà. Je sais pas ce que vous avez compris comme.
C'est Radio Sans Nous.
Non, prenez des notes, hein, parce que je vais pas répéter. Hein.
Un témoignage à faire passer, une info à diffuser ou du temps pour filer un coup de main, bienvenue. Envoie-nous un mail à radio.sansnous@cma-pdll.org.
Comment ?
J'ai pas compris.
Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Tu veux participer à une radio d'éduc pop ? Bah, rejoins-nous.
Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer ?
Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai.
Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one fifth.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Oh,
Et vous écoutez Radio Sans Nous, c'est l'émission généraliste. On est en train de discuter de la foi, et après on a la petite émission autour de la zététique. Et comme on est en direct, vous pouvez nous rejoindre sur le chat pour poser vos questions.
Voilà, et on voulait revenir un peu sur des éléments autour de la relation pédagogique à travers la FOAD, en tant que composante contributive à une démarche pédagogique singulière. Est-ce que, Mathilde, tu voulais aborder cette question ?
Oui, moi, ce qui m'interroge là, depuis, moi, j'ai assuré 4 semaines de formation à distance avec 2 groupes différents, et du coup, je me suis penchée sur cette question en disant qu'en fait, ma fonction de formatrice, elle restait la même. Par contre, c'est mon rôle d'accompagnatrice qui se transformait. Parce que, là où je suis physiquement présente dans une salle de formation, dans des locaux habituellement, je suis plus présente forcément lors du distanciel, et pourtant c'est là que le groupe stagiaire et individuellement les stagiaires, ils ont le plus besoin de moi. Du coup, la question que je me suis posée tout le temps là, c'est comment est-ce que je peux être présente à distance et pour faire quoi ? Et en fait, je me suis fixé 3 axes. Sur cette question de la présence à distance. Un premier axe, c'était de garantir le cadre de formation. Du coup, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, là, à dire il faut que l'équipe de formation, comme en présentiel, elle présente des contenus de formation, les démarches, garantir les moyens de mise en œuvre pour atteindre ses objectifs, et puis mettre à disposition les outils qui vont être utilisés, que ça s'inscrive, ça on en a moins parlé, mais que ça s'inscrive dans un cadre législatif et prescrit, qui est toute la partie administrative, tout ça. Mon deuxième objectif, c'est de faire vivre un groupe, et donc tout ce qu'on a pu dire autour des temps institutionnels, de faire le choix de maintenir un quad neuf, ça Céline elle a pu en parler, mais aussi un temps de bilan de semaine, à se dire il est essentiel que les stagiaires ils puissent avoir la main pour nous faire des retours, dire ce qui n'a pas fonctionné, dire ce qu'il faut améliorer, nous accompagner aussi à mieux les accompagner. Voilà, et ça, de pouvoir entendre les paroles, mais Céline, elle a dit, c'est essentiel. Et dans faire vivre le groupe, il y a aussi faire vivre des temps informels sur les temps synchrones. Nous, aujourd'hui, à chaque fois, avant chaque temps de classe à distance, là, qui pourrait être des temps d'apport de contenu, aujourd'hui, on ouvre et on est présent, l'équipe de formation, sur ces temps-là, un quart d'heure avant, qui est le temps, viens boire un thé, viens papoter, tout ça, là, en se disant, c'est important qu'on puisse aussi créer des inter-espaces, là, qui permettent au groupe de vivre et de se retrouver. Ce qui ne veut pas dire que les stagiaires ils peuvent pas le faire sans nous, mais que nous on permette aussi que ça puisse se vivre avec nous. Et puis le troisième truc, c'est de la question de l'accompagnement individuel. Et ça, cette question de l'accompagnement individuel, elle se vit ailleurs, elle se vit sur des espaces de discussion privés sur le chat, elle se vit sur des temps par téléphone. Alors des fois c'est très bref, très rapide et c'est très technique. Oui, alors pour créer un pad, tu cliques là, tu fais comme ça. Mais des fois c'est aussi des temps longs par téléphone ou par chat, mais c'est quand même très long, sur comment est-ce que j'ai des difficultés d'organisation dans mon travail de formation, j'ai des difficultés avec ma structure d'alternance. Ça va pas hyper bien dans ma vie et du coup ça engendre plein de trucs sur ma formation, et du coup il y a bien ces 3 axes-là: garantir le cadre de formation, faire vivre le groupe et l'accompagnement individuel. Et que ça, moi aujourd'hui, je me rends compte que quand j'anime une semaine de formation, je suis nettement moins présente sur le face-à-face, c'est-à-dire que je suis moins dans la salle de formation, dans la salle de classe virtuelle. Je suis, les stagiaires ils me voient beaucoup moins en grand groupe. Par contre, je prends vachement plus de temps en individuel, que je suis garante du cadre de la formation, que dans l'ensemble des démarches qu'on a mis en place, le but, c'est que chacun, chacune trouve sa place dans le cadre de formation qu'on propose, et que les temps que je vais passer en présentiel, en grand groupe, en collectif, on les a réduits parce que ça prend beaucoup de temps aux gens, et qu'en fait on a trouvé des démarches qui sont moins sollicitantes que le grand groupe en audio, en visio, où on se rend compte que ça marche peu et qu'il faut trouver d'autres démarches. Mais par contre, moi, le temps que j'y passe dans le suivi des petits groupes de travail, dans les échanges sur le chat, dans les coups de fil, ça, c'est essentiel pour permettre une meilleure individualisation de la formation à distance. et que cette question-là, je l'ai beaucoup plus travaillée en distanciel qu'en présentiel, et que je trouve aujourd'hui que mon accompagnement, il est de meilleure qualité. Et là où ça me fait réfléchir sur, tu disais tout à l'heure, Régis, qu'est-ce qu'on garde pour le après, ben je trouve qu'à un moment, moi là, ça me met en réflexion sur le fait de subir l'art de la formation à distance et que du distanciel. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'en garder demain dans ma posture de formatrice sur la question de l'accompagnement et sur la temporalité et les moyens de cet accompagnement-là.
Ça interroge la question du magistral, par exemple.
Alors, du magistral, mais aussi du prendre le temps avec les personnes.
Oui. Mais de fait, si tu es sur le magistral, c'est que tu ne peux pas prendre le temps.
Bah ouais.
Du coup, comment, à un moment donné, l'apport en magistral, il n'est peut-être pas si fondamental que ça. Il y en a besoin de temps en temps, mais de manière peut-être plus réduite.
Oui. Et aussi, comment est-ce que... nous, on se dit peut-être formateur, on en a besoin, mais aussi les stagiaires se disent qu'ils en ont besoin, alors qu'en fait, quand ils ne l'ont pas, bah, ils s'en sortent. Enfin, du coup, je trouve cette relation, elle est à déconstruire des deux côtés, quoi. Pour créer d'autres choses.
Oui. D'ailleurs, il y a un texte qui dit à lire un peu ce qu'on vient de se dire, qui est une charte de formation à distance, alors qui sera mise en ligne, parce qu'elle n'y est pas encore, mais sous peu, sur le site des CMA, hein, covid-19.cma-du6pdll.org. Et donc, c'est une charte qui, bien évidemment, dit pour nous la formation à distance, alors je ne vais pas la lire complètement, mais les points fondamentaux. Pour nous, la formation à distance ne peut se suffire en elle-même. On a besoin du groupe présentiel, on a des temps d'agir. Pour autant, elle est une composante contributive d'une démarche pédagogique au service de la formation et de l'émancipation des individus. Et du coup, après, c'est quelques repères pédagogiques qui sont nommés, hein, mais on en a parlé, un parcours de formation alternant présentiel et distanciel, une nécessaire individualisation, différenciation, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait des rencontres individuelles, petits groupes, grands groupes, mais il faut qu'il y ait cette alternance. Des situations d'apprentissage dans lesquelles les stagiaires s'impliquent. Effectivement, hein, c'est la démarche participative, elle doit rester au cœur de notre proposition à distance. Des modalités d'évaluation diversifiées. Et puis, alors, peut-être quelque chose qu'on a moins mis en œuvre parce que le Covid, il nous est arrivé comme ça, on ne l'a pas assez anticipé, hein, très certainement, mais c'est la question... l'accompagnement des utilisateurs et utilisatrices. Alors, ça a été dit, on l'a fait beaucoup les premières semaines, ne serait-ce que sur les outils, hein, mais c'est quel accompagnement des équipes pédagogiques de formation, mais quel accompagnement des stagiaires et quel accompagnement des tuteurs-tutrices. C'est peut-être là encore que le bas blesse le plus. Dans cette situation d'urgence, on n'a certainement pas eu le temps de tout mettre en œuvre vis-à-vis des tuteurs-tutrices, même s'il y a des choses qui ont été mises en œuvre, des réunions qui ont été proposées, etc. Et donc, ce texte-là sera mis en ligne sous peu... sur le site des CMA. Est-ce qu'il y a un souhait de rajout? Non, Mathilde, Céline?
Eh bien, non, je donne la... vas-y, donne la
parole. Sinon, c'était pour enchaîner.
Ouais, c'est très bien.
Ok, je crois que c'était Clo qui devait enchaîner, faire la transition de manière magnifique entre la FOAD et la zététique.
Ah, les saletés.
On a décidé ça sur une pause café où tu n'étais pas là.
C'est ça. Du coup, nous en avons fini pour cette partie sur la FOAD. Merci à Céline et Mathilde de s'être joints à nous pour cette petite émission. Et puis, on va enchaîner autour de la question zététique. C'est un peu un rituel sur Radio Sans Nous dans nos tournées générales de toujours parler zététique. Et aujourd'hui, on a envie, en tout cas, les copains copines avaient envie de parler des breaking news qui circulent et globalement de comment, en cette période de confinement et en cette période de pandémie, il y a plein de personnes plus ou moins scientifiques, plus ou moins savantes qui balancent des infos. Et du coup, à cette heure du tout numérique, etc., il y a plein d'infos qui circulent sur les réseaux sociaux, etc. Et notamment une qui prétendrait que le Covid-19 a été fabriqué à partir du VIH. Voilà.
Eh ben, je balance peut-être le jingle zététique.
Allez.
C'est parti pour 30 secondes.
Allez, Krishna, zététique peut-elle casser des briques?
Quoi?
Non, je sais.
Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs.
Le savoir est une arme d'instruction massive.
Ouais, tu calmes.
Souviens-toi que c'est les vainqueurs qui rédigent les livres d'histoire.
Une épitaphe pour quelques copains.
Non, je sais.
Eh bien, vous écoutez Radio Sans Nous, une émission en direct. Du coup, vous pouvez vous mettre sur le chat pour les questions. Et il est venu le temps de la zététique.
Et c'est parti pour cette rubrique. Alors aujourd'hui, pour commencer, on va vous faire deux présentations successives d'un même fait, d'un même événement, d'une même histoire. Et puis ensuite, on va essayer de revenir un petit peu sur, essayer d'en tirer quelques enjeux liés à la zététique, liés à la construction de la connaissance et différents biais auxquels on est exposé. Alors, une première présentation de cet événement. Luc Montagnier, c'est un biologiste, un virologue français qui est professeur à l'Institut Pasteur, qui a été professeur à l'Institut Pasteur pendant 28 ans, professeur à l'Université de New York, professeur émérite du CNRS, etc. Donc Luc Montagnier, il décroche avec sa collègue Françoise Barré-Sinoussi le prix Nobel de médecine en 2008 pour récompenser leur découverte en 1983 du VIH, le virus responsable du sida. Le 16 avril 2020, il annonce sur une radio une découverte surprenante. Le virus responsable de la pandémie actuelle, le SARS-CoV-2, aurait été créé en laboratoire à Wuhan en insérant des parties du génome du VIH dans un autre coronavirus. C'est une étude indienne menée le 30 janvier 2020 qui fait ce constat, enfin publiée le 30 janvier 2020 qui fait ce constat. Après avoir séquencé le génome du virus, ils l'ont comparé aux autres génomes de coronavirus et il leur est apparu que 4 séquences de gènes qui figurent dans le SARS-CoV-2 n'apparaissent dans aucun autre coronavirus. Et plus troublant encore, ces 4 séquences de gènes se retrouvent dans le VIH, le virus du sida. Donc, alors je cite, ouvrez les guillemets, ce n'est pas naturel, c'est un travail de professionnels, de biologistes moléculaires, d'horlogers des séquences. Fermez les guillemets, ajoute le professeur Montagnier sur RMC, pour qui un tel travail ne peut être que le fruit de chercheurs en laboratoire. Et il existe justement un laboratoire de recherche sur le génome, précisément à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Alors le professeur Montagnier ne prête pas pour autant de mauvaises intentions aux équipes de chercheurs, mais il fait l'hypothèse d'un accident ayant entraîné une fuite de ce virus, celui-ci étant peut-être un essai pour un remède, pour un vaccin au sida. Donc ça, c'est une première manière de présenter l'événement. Je laisse la parole à Léo pour le présenter autrement.
Et Luc Montagnier, c'est aussi un scientifique très décrié par la communauté scientifique elle-même. En 2002, il propose au pape Jean-Paul II de le guérir de sa maladie de Parkinson avec de la papaye fermentée. C'est même l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui doit publier une étude pour expliquer qu'il n'y a pas de preuve scientifique de l'effet de la papaye fermentée sur les personnes parce que des médicaments commencent à sortir à base de papaye fermentée. En 2008, il annonce avoir trouvé une nouvelle méthode pour diagnostiquer la maladie de Lyme en étudiant les ondes électromagnétiques d'échantillons de sang, mais aucune publication scientifique n'atteste le fonctionnement de cette méthode. En 2019, il publie une étude sur la téléportation de l'ADN, une étude truffée d'erreurs de protocole et qui manque cruellement d'explications sur les phénomènes observés. Les plus optimistes attendent encore une publication dans une revue avec relecture par les pairs pour espérer avoir plusieurs détails. Un petit peu plus tard, la même année, en 2009, il déclare qu'il suffit d'avoir un bon système immunitaire pour guérir du sida en quelques semaines. Et c'est d'ailleurs ce qui ferait défaut aux Africains dû à leur alimentation et qui explique la forte propagation du virus en Afrique. En 2017, il s'attaque au vaccin, et lors d'une conférence avec un médecin anti-vax, il soutient la thèse qu'il y a une relation entre la mort subite du nourrisson et la vaccination. Une étude menée au Royaume-Uni, publiée en 2001, montre pourtant qu'il n'y a aucune corrélation. À la suite de ça, une centaine de médecins écrivent une tribune contre Luc Montagnier et condamnent ses propos. Il est renié par l'Institut Pasteur, dont il est toujours professeur émérite, et dénoncé par l'Académie nationale de médecine, dont il est toujours membre, mais n'y met plus jamais les pieds. Et donc, on arrive au fait récent. Le 16 avril 2020, il annonce, à partir de ses recherches et d'une étude indienne, avoir la preuve que le coronavirus est une construction de laboratoire contenant des morceaux du génome du VIH.
Bon, Du coup, on voit avec qu'on peut faire deux présentations très différentes du même événement, du même personnage. Ces deux présentations, elles sont vraies au sens où, où les faits qu'elles décrivent se sont réellement passés. Mais aucune des deux n'est exhaustive et elles sont toutes les deux partielles, voire partiales. C'est-à-dire qu'elles sont, elles prennent qu'une partie des informations et elles prennent partie au sens de... elles choisissent d'en occulter d'autres. La question qui se pose est alors de... En quoi est-ce que le contexte dans lequel je reçois une information modifie ma compréhension de l'information, mon degré de confiance dans la véracité de cette information? Dans cet exemple, en fonction de la présentation à laquelle on a accès, ça risque de biaiser considérablement notre compréhension de la portée de la recherche indienne et des déclarations de Luc Montagnier. Alors pourquoi? On va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. À toi Léo.
Il y a un premier effet qui est le suivant. En fait, on pourrait être emmené à croire au premier abord les dires de M. Montagnier. En effet, professeur émérite au CNRS, prix Nobel, bah ça claque. Le gars a de la bouteille et il peut pas dire que des conneries. Et en fait, pourquoi pas? Avoir un prix Nobel n'empêche en aucun cas de dire des conneries, ça se saurait. Pourtant, c'est un fait. On a tendance à croire les personnes avec un gros bagage intellectuel, sans forcément chercher les vrais arguments. Et puis ça paraît normal en fait. Si la personne est barrée de diplôme, elle en sait sûrement plus que nous, et on n'a pas le temps d'aller comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce qu'elle raconte. Et peut-être même que ça ne nous intéresse pas tant que ça. La question alors, c'est de savoir où est-ce que je place mon curseur de croyance. Est-ce que je dois croire ou pas croire ce qu'on me raconte? Bah en fait, ça dépend. Le degré de connaissance de la personne qui vous transmet l'information ne suffit pas à la croire ou non. Il y a une devise zététique qui dit « une affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires ». Et dans le cas du coronavirus mixé à du VIH, on est plutôt en présence d'une information extraordinaire. On va donc devoir aller chercher plus loin. A contrario, si par exemple un météorologue vous dit qu'il va pleuvoir le lendemain, ben ça semble pas extraordinaire comme information. Et il me semble qu'a priori on pourrait lui faire confiance. Ça veut en aucun cas dire que l'affirmation extraordinaire est fausse ou que l'affirmation ordinaire est vraie. Ça nous aide juste à placer notre curseur de croyance avant de pouvoir aller faire plus de recherches. Il y a une utilisation de ce phénomène qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire que quelqu'un va utiliser dans un débat l'argument de l'autorité d'un expert plutôt que d'utiliser des arguments sur le contenu. On peut trouver par exemple récemment dans le discours de Macron du 16 mars, il me semble, il dit cette phrase « Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est une priorité absolue. » Les scientifiques le disent. En fait, ça ne nous apporte aucune explication sur les raisons de pourquoi il faut limiter le nombre de personnes avec qui on est en contact. Mais ça fait le taf, on a envie de le croire. En fait, ça va dépendre de quelle confiance on donne aux scientifiques. Parce qu'en fait, on sait bien que les scientifiques peuvent se tromper, et on sait bien aussi que l'utilisation politique de dire de scientifiques peuvent aussi être trompeurs. Ce type d'argument fait appel à des experts et à la confiance qu'on a en eux. Il convient donc bien de prendre la conclusion de ces arguments avec des pincettes. C'est probablement vrai.
Bon, donc dans cette situation, on a l'air de ne pas pouvoir se baser simplement sur qui parle pour juger de la véracité de ce qui est dit. Ça va nous demander d'aller regarder un petit peu plus loin, d'aller regarder les arguments scientifiques d'un peu plus près. Alors on va tâcher d'en dire quelque chose, même s'il y aurait sûrement beaucoup plus à en dire, voilà, on va essayer d'esquisser au moins quelques éléments. Alors tout d'abord de dire que depuis le début de l'épidémie, l'ARN du virus, donc le génome du virus, a été séquencé plusieurs dizaines de fois en Chine et ailleurs dans le monde. L'un des objectifs de ces séquençages, ça a été de vérifier si le virus a pu être modifié, a pu être édité, et donc s'il a pu sortir d'un laboratoire, P3 ou P4 notamment. L'outil de modification génétique qui s'appelle CRISPR-Cas9 laisse des traces dans le... Quand on édite un génome avec cet outil-là, ça laisse des traces, il y a des choses qui se voient. C'est pas comme une mutation naturelle. Ces traces, elles n'ont pas été retrouvées dans le génome lors des différents séquençages. Il n'y a à la limite que l'étude indienne qui rapporte ce phénomène. Le fait que cette expérience ait été reproduite pas mal de fois donne du poids à cet argument de dire que ça ne semble pas être un virus qui a été édité. Alors Luc Montagnier, il annonce, donc en se fondant sur les résultats de l'étude indienne, Alors l'étude indienne, faut revenir un petit peu dessus, donc elle paraît fin janvier sur un site de prépublication, donc on l'a déjà dit dans d'autres émissions, mais ça vaut le coup de redire. La prépublication, c'est une pratique qui consiste à, avant de publier dans une recherche, avant de publier une recherche dans un dans une revue à comité de lecture, et bien de le publier sur un site de prépublication qui permet à plus largement, à plein de chercheurs, de relire l'étude, de voilà, d'avoir les résultats préliminaires. Donc c'est quelque chose de tout à fait temporaire, c'est une étape dans la publication. Et donc, cette étude, elle concluait à la possibilité que le virus ait été modifié génétiquement, probablement pour créer un vaccin contre le VIH, cette hypothèse-là, l'étude indienne l'avance. Et ils l'avancent parce qu'ils disent retrouver des séquences dites du VIH dans le virus SARS-CoV-2. Seulement les séquences dont l'étude indienne et Luc Montagnier parlent, elles sont aussi communes à un virus de la nectarine, à un virus de la guêpe et à une chier d'autres virus. Les virus, ils partagent une bonne partie de leur ARN, de leur génome, de la même manière que les mammifères ont en commun une bonne partie de leur ADN. Pour essayer de faire comprendre ça, on peut faire une analogie. Conclure ce que Luc Montagnier conclut, ça revient à peu près à dire. Je lis Guerre et Paix de Tolstoï et je lis Harry Potter de J.K. Rowling. Je retrouve 15 fois le mot tapis dans les deux ouvrages, c'est donc qu'on a utilisé des bouts de Guerre et Paix pour écrire Harry Potter. Voilà, c'est à peu près de cet ordre-là qu'est le raisonnement de Luc Montagnier. Une autre manière de le dire, le cochon et l'humain partagent une grande partie de leur génome, c'est donc que l'un est issu de l'autre. Eh ben non, c'est qu'ils ont probablement des ancêtres lointains en commun, ou qu'ils ont eu des stratégies adaptatives communes, comme les virus entre eux. Conclure à la parenté des deux virus, c'est très faible, c'est même pas possible. Alors depuis, l'étude indienne, elle a été retirée, en fait elle a été même retirée quelques heures après sa publication. Pas sous la pression, comme l'avance Montagnier, mais du fait des chercheurs eux-mêmes qui, devant les critiques qui leur sont adressées au moment où ils publient, reconnaissent qu'ils ont traité l'étude de manière partielle. Ils ont fait une analyse partielle et biaisée des résultats. Il y a des limites dans leurs études, des limites méthodologiques. Ils n'ont pas publié les réglages de leurs appareils, par exemple, ce qui limite la reproductibilité de l'étude. D'autres chercheurs se sont penchés sur la question, ils ont décortiqué les résultats de l'équipe indienne, ils ont reproduit le séquençage dans le laboratoire et ils concluent qu'une manipulation du virus est hautement improbable. Alors, aujourd'hui, le consensus scientifique va très largement dans ce sens, donc dans le sens de dire que c'est hautement improbable. Personne ne dit que c'est impossible. Seulement, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de croire que le virus a été édité. Il y a même beaucoup de raisons de croire qu'il ne l'a pas été.
Mais du coup, on peut se demander, qu'est-ce qui pousse le site Pourquoi Docteur à donner la parole à Luc Montagnier ? Effectivement, en faisant quelques recherches, on se rend bien compte que c'est hautement improbable que les dires de Luc Montagnier soient vrais. D'autant même que le site lui-même, Pourquoi Docteur, publie un autre article le lendemain qui dit en gros pourquoi Luc Montagnier dit de la merde et pourquoi on ferait mieux de ne pas le croire. C'est pas le vrai titre de l'article, mais ça raconte à peu près ça. En fait, pourquoi des résultats d'études extraordinaires semblent être parfois bien plus médiatisés que d'autres, quitte à ce qu'elles soient bancales, pas terminées ou même largement débunkées depuis longtemps. Ça tient beaucoup au fait que ce qui anime des revues de vulgarisation scientifique ou des rubriques sciences de beaucoup de médias nationaux, c'est beaucoup moins le fait d'être vrai, juste, de rendre compte de l'état de connaissance, voire des limites d'une étude, du débat dans la communauté scientifique, que de faire acheter ces dites revues. Si on regarde par exemple les unes de Science et Avenir, les unes parlent d'elles-mêmes. On a en novembre, le titre de Science et Avenir, c'est « Alzheimer, infarctus, cancer, attention aux bactéries buccales ». En décembre, on a neurosciences et méditation, contrôle de soi, attention, bien-être, les erreurs à éviter. En février, on a retarder le vieillissement, 34 ans, 60 ans, 78 ans, trois âges cruciaux découverts par les chercheurs. Si ce genre d'article part d'une publication bien réelle, la formulation des titres est souvent trompeuse. Ça pousse à acheter, à cliquer. Bien souvent, si on lit l'article, on se rend compte que c'est pas si ouf que ça. Mais c'est pas grave, on a déjà acheté et c'est ça qui compte. Par ailleurs, et c'est un biais qui pose problème au sein même de la recherche, une publication qui aboutit à des résultats négatifs est beaucoup moins médiatisable. Que dire d'une publication dont le résumé serait « L'ARN du SARS-CoV-2 n'a rien d'anormal, pas de bout chelou de VIH dedans, aucun morceau d'Ebola, rien de la variole, en fait, rien de nouveau dans le SARS-CoV-2 ».
Ce qu'on voulait en dire sur la question de la publication, enfin du rapport entre médias et sciences, et notamment, vous avez compris. Transition de merde.
Non, par contre, avec vous, on se fait pas que des amis quand même. Hein.
Ah non, mais non, ouais, on a une.
À chaque émission, on a des ennemis, quoi.
J'avoue. Non, c'est pas ça. Bon, bref. Un dernier truc dont je voulais vous causer, c'était le truc suivant. On peut maintenant se demander comment est-ce que un prix Nobel de médecine en vient à sortir à ce point du consensus scientifique sur un ensemble de sujets. Quoi. Le type, il va à la fois nous dire que les vaccins c'est dangereux beaucoup plus qu'on ne le croit, que l'homéopathie ça marche très très bien et qu'il l'a prouvé, qu'il y a une série de trucs chelous. Et du coup, il dans ses publications, parce qu'il a continué à publier ce garçon, il fait preuve il fait la démonstration de méthodes de recherche qui sont tout à fait pseudo-scientifiques. Alors pourquoi est-ce qu'un type qui a un prix Nobel de médecine en arrive là ? Certaines avancent l'idée qu'il y aurait une nobélite, une maladie des Nobels, une tendance qui pousserait les Nobels, une fois le titre reçu, à se lancer dans des aventures scientifiques douteuses en dehors de leur domaine de recherche, ou encore à se mettre à croire à des théories du complot ou à des pseudo-sciences. Alors ces personnes, elles repartent de Pierre et Marie Curie, qui auraient consulté un voyant à de nombreuses reprises, et dénombrent une trentaine de cas de prix Nobel atteints de nobélite. Alors on peut se dire que ça fait beaucoup. Alors, oui, mais quand on rapporte au nombre total de personnes nobélisées, il y a plus de 900 personnes aujourd'hui qui ont reçu des prix Nobel. Bon, 30 sur 900, ça fait pas mal, ça fait 3%, mais est-ce que c'est suffisant pour parler d'un réel phénomène ? C'est pas sûr. Et puis, sur quels critères est-ce qu'on classe les personnes là-dedans ? Il m'a été impossible de retrouver la liste des 30 noms avancés quand on parle de nobélite. Et la nobélite, c'est pas anecdotique, on la retrouve dans plusieurs articles, y compris sur Wikipédia, dans plusieurs articles autour de Luc Montagné notamment. Donc, compliqué de retrouver les 30 noms avancés. Au-delà de quelques exemples éclatants, dont Luc Montagné fait partie, on peine à trouver matière à en faire une maladie répandue. On trouve même, pour vous exemplifier la question des critères, dans l'un des articles en source de Nobelite dans Wikipédia, on trouve la démission de Timothy Hunt de son poste dans une université parce qu'il a tenu des propos sexistes. Alors, selon lui, c'était une blague, ce n'était évidemment pas vraiment une. Maintenant, avec une définition aussi large des symptômes, c'est pas compliqué de construire une épidémie. Il est bien possible que cette maladie des Nobel soit en partie due à l'attention accrue que l'on porte aux propos des personnes nobélisées. Un Nobel ne prémunit pas de penser avec son cul dans d'autres domaines. Cependant, une fois qu'on a écarté ces biais, peut-être qu'il reste quelque chose du côté de « j'ai eu un Nobel, je suis un génie et je craque mon slip » en ayant des intuitions cheloues et en publiant à tort et à travers dessus. Si c'est possible, ça semble encore en tout cas un peu léger pour en faire une mécanique récurrente. Notre rubrique zététique s'arrête là-dessus pour notre part. Est-ce qu'il y a des envies de réaction ?
Normalement, c'est Claude qui réagit.
mais ma connexion internet est aux fraises, j'ai entendu un mot sur deux de toute l'émission.
Ah. Oui, ça suffit peut-être pas, effectivement. Voilà pour nous. Bah, en tout cas, on avait envie d'utiliser cet exemple de Luc Montagné et du prix Nobel pour parler de notamment la question de l'argument d'autorité et du traitement médiatique des infos scientifiques.
Mais moi, je me posais la question sur le personnage. C'est-à-dire, il n'a pas toujours été comme ça. Il vieillit mal. Qu'est-ce qui lui arrive ? Parce qu'il fait presque charlatan, là. Et ça n'a pas toujours été le cas.
Ben, ça n'a pas toujours été le cas. Mais en fait, on voit bien que avant son prix Nobel, par exemple, donc ses premiers fait d'armes un petit peu décrié, c'était donc c'est la papaye fermentée. C'est 6 ans avant son prix Nobel.
Mais... Donc il a toujours été peut-être un peu.
Tu crains pour toi, Régis ?
Tout à fait.
Non.
En tout cas, bon, mon propos là-dessus, c'est de dire, je pense qu'une bonne partie de cette histoire, elle tient aussi au fait qu'une fois que quelqu'un a reçu un prix Nobel, eh bien, on fait très attention à ce que cette personne dit, quoi. C'est sa parole à une autre audience. Il y a un scientifique qui raconte des conneries dans son coin, il a peut-être vaguement la parole dans un média une fois l'an, et encore, c'est un prix Nobel, ça a un autre écho. Et je pense que ça tient pas mal à ça.
Il s'agirait aussi de regarder les pratiques avant, parce que du coup, par exemple, Pierre et Marie Curie, est-ce qu'avant ils allaient déjà consulter des personnes ou quoi ?
Eh oui.
Et du coup, de voir si on peut avoir déjà ces éléments aussi.
C'est ça. Moi, les éléments que j'ai trouvés sur Pierre et Marie Curie, c'est qu'effectivement, ils reçoivent un premier prix Nobel en 1903 et que ça correspond aux dates, en tout cas, qu'on retrouve sur la question de ils consultent un voyant qui est très, très célèbre, etc. Voilà, c'est pas impossible, hein, du tout. Ça me fait penser à ce qu'on disait sur l'émission sur les complotismes, sur la deuxième émission sur les complotismes. On parlait à un moment donné du fait que certaines théories du complot sont, proviennent ou sont entretenues dans des milieux universitaires. C'est pas du tout incompatible. Notamment le récentisme qui consiste à nier. À peu près 500 ans d'histoire autour du Moyen-Âge, 500, 800, ça dépend des théories, et B, ça vient essentiellement du milieu universitaire russe, puis c'est repris dans le milieu universitaire allemand.
Et puis ça paraît pas complètement illogique que des personnes qui sont reconnues et du coup sont considérées comme légitimes se sentent une légitimité sur à peu près tout et n'importe quoi, enfin, forcément vu qu'elles sont valorisées sur un certain nombre de compétences qu'elles ont, elles peuvent rapidement se sentir légitimes sur tout, quoi.
On peut aussi imaginer que c'est une envie de rester au niveau, enfin, après avoir fait une découverte qui révolutionne, là dans son cas la biologie et la virologie, bah, de vouloir faire d'autres découvertes du même crédit, et du coup bah, d'aller chercher là où... Parce qu'effectivement, tout ce qu'il annonce, si c'est prouvé comme étant vrai, c'est d'autres prix Nobel. Ça révolutionne complètement notre vision de la science. Bon, pour l'instant, ça mène un peu nulle part. C'est peut-être cette envie d'aller creuser les pistes qui feraient d'autres études un peu extraordinaires.
Et moi, ça m'évoque un autre aspect, c'est que, quelque part, le prix Nobel, il produit ça en lui-même, quoi. C'est un prix qui récompense des recherches... En fait, c'est un prix qui ne peut récompenser que 3 personnes, là où on sait que les recherches, elles sont souvent menées à beaucoup plus que ça. Donc ça personnifie un peu la recherche et ça entretient une culture du génie. C'est-à-dire savoir récompenser des recherches qui parfois sont un peu disruptives, comme dirait notre président. Moi, ça m'évoque pas mal la conception de la science qu'on a pu un peu dénoncer chez Didier Raoult, donc le type qui dit que la chloroquine c'est merveilleux, au sens où il a une culture scientifique et une culture de, enfin, une conception de la science qui est une science des élites, une science de l'intuition du génie. Et ça nous semble assez éloigné de ce qu'est la science pour de vrai. C'est quelque chose qui s'ancre dans le temps, qui est ingrat, qui passe par plein d'étapes laborieuses, pas forcément très, comment dire, très glorieuse, quoi. Et je pense que c'est une, enfin, cette perception qu'on pourrait avoir des prix Nobel, en tout cas c'est une perception biaisée de la science, c'est une perception fallacieuse.
Plus haut, toujours rien à dire.
Mais peut-être qu'on peut s'arrêter par là. Hein,
ouais. Eh bien, on peut dire au revoir et puis mettre une petite musique de fin.
Merci à vous.
Merci à vous.
On se
retrouve ce soir pour l'émission des mômes avec de nouvelles histoires. Et puis demain midi pour les émissions du midi.
Et si jamais, quand vous écoutez, vous voyez qu'il y a moins de choses le week-end, ça n'a rien à voir avec la semaine. Il y a des moments où le week-end, c'est le week-end, quoi. Il y a moins de choses. Donc le samedi midi, des fois, il ne peut pas y avoir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trucs la semaine. Et tout à l'heure, Manu, il parlait des premières émissions. Et les premières émissions, elles sont trouvables en podcast sur covid19.cma-pdll.org.
Et bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer des contenus que vous voudriez qu'on diffuse. Et on est toujours en train de mener plusieurs petites enquêtes. Donc, on attend vos témoignages sur vos 3 livres préférés, des souvenirs liés à la lecture d'Harry Potter et votre rapport à votre chambre pendant le confinement. Voilà, pour des prochaines émissions.
Et puis, on a aussi un nouveau truc. Depuis 15 jours, on fait pas mal de quiz. Il y a des quiz qui sont faits sur Harry Potter, sur Star Wars. Et là, on a un quiz sur le trône de fer qui aura lieu mardi à 14h.
Tu pourrais même mettre le jingle, non ? Tellement qu'il est bien.
Ouais, ben je pourrais le mettre, mais il faudrait que je le trouve, tout ça.
Ah, ouais.
Je vais préférer passer une petite musique de Brigitte Fontaine sur le genre humain.
Très bien.
Et ben, bonne journée.
À plus.
Bonne journée. Radio.
Sans doute.
Je me suis trouvée là, dans ce corps inconnu. Pour Dieu, c'est quel gars-là, je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté, dans ce monde étranger. Ange au supermarché, il m'a fallu danser. La Java des terriens, sans en connaître rien. Je viens d'un au-delà, au souvenir brumeux d'une étoile angora, d'un chaos ténébreux. J'étais l'œil vert du feu, ou la reine invisible. Je m'éveille d'un seul panard. Moi, l'eau du paradis, l'encre des galaxies. Je fais un genre humain. Et je fais de mon mieux.
Je fais un genre humain.
c'est Radio Sans Nous.
Non, prenez des notes, hein, parce que je vais pas répéter. Hein.
Un témoignage à faire passer, une info à diffuser ou du temps pour filer un coup de main, bienvenue. Envoie-nous un mail à radio.sansnous@cma-pdll.org.
Comment ? J'ai pas compris. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Tu veux participer à une radio d'éduc pop ? Bah rejoins-nous.
Ah ça c'est vrai, ça vous intéresserait pas de participer ?
Ah mais c'est pas possible ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai.
Putain, mais là, je me suis encore fait contrôler, les mecs, ils me font la morale. Ils me parlent de la loi, on parle de l'État, tu sais, je leur ai dit quoi ? Vas-y, balance un sample, je te raconte. On m'a dit, putain, Kawa, fais pas d'histoire.
Pas ton dieu.
Alors du coup, je casse d'être ce trac au vrai contre-pouvoir. Merci à la police, aux gendarmes. Yeah. Éteins ta télé, lis un livre.
J'ai bien voulu qu'on débat.
Soutiens les esprits libres. Yeah. Snowden, Assange, WikiLeaks,
Stéphane Hessel,
c'est longtemps affronté. Charlie Hebdo, Bradley Manning, on est souvent du même côté. Rémi Garnier, Anonymous, les prisonniers politiques du monde entier. Depuis l'Antiquité, tu sais, rien n'a vraiment changé. On assassine toujours les messages.